şiş değil. Sabah.
C'était la plus rebelle des radios.
Radio Canu,
le magazine musico, politico, drôlo, radiophonique.
C'est rock'n'roll.
Rock'n'roll.
C'est ça.
Ma rock'n'roll.
Ma rock'n'roll.
Bon bah voilà, nous sommes mercredi, il est peut-être midi. Et dans ce Ma rock'n'roll, nous sommes sur une aire d'autoroute à proximité de Narbonne, je pense.
Ouais.
Alors la destination, c'est où?
C'est l'Espagne dans un premier temps, et puis une petite pause en Espagne dans l'après-midi. Et, bon, la destination finale, c'est l'Afrique, bien sûr, le continent africain.
Chiu Marocco.
Marocco, El Maghreb, salam alaikum, c'est Zetoun jusqu'à minuit, Inch'Allah, sur Radio Canu, Rock'n'Roll, le magazine musico-politico-drôlo-touristique. 102.2 mon ami, la radio moins chère, pas de publicité ici mon ami, la meilleure musique, du pur kiff, du double zéro, jusqu'à minuit tu vas bronzer la tête, bzef, tellement tu vas imaginer que t'es en voyage au Maroc. Et oui, ce soir, Rock'n'Roll Voyage, émission spéciale, émission carnet de route. Karine et Thierry et Louison, qu'on a entendu juste avant, ont embarqué dans leur grosse voiture le micro de Rock'n'Roll. Et on a ramené du son qu'on vous diffuse ce soir, exceptionnellement jusqu'à minuit.
Sur la route, tout va bien. On a à peu près bien dormi, je pense. Il fait beau, c'est vraiment bien. On est vraiment en direction du sud et ça sent le sud.
Alors on est parti à 6h du matin de l'Auvergne et on se disait quand même il fait froid là, on est au sud de la France et on se demandait s'il allait faire plus chaud. Vous avez maté la météo un peu marocaine?
Ouais, mais bon, moi je tiens compte du truc, on fait 100 km en direction du sud, on gagne un degré à peu près. Donc à chaque fois qu'on fait 100 bornes, on gagne un degré, on va faire plus de 1000 bornes en Espagne, on va gagner 10 degrés facile. Donc ouais, il fait froid tout de suite, mais c'est normal, on est en France, c'est un pays froid, et voilà, ça va bien passer quoi. Il va faire bon et chaud, on va sortir les sandales, les strings en dentelle.
Au Maroc, sur le littoral méditerranéen, le temps sera assez ensoleillé, avec des nuages isolés, des températures autour de 10 degrés le matin, entre 16 et 21 degrés l'après-midi. Sur la région de Tanger, on prévoit un temps brumeux dans la matinée avec des températures autour de 9 degrés, soleil et quelques nuages dans la journée avec des températures autour de 19 degrés l'après-midi. La plaine atlantique dessus de Tanger, Casablanca, connaîtra brume et brouillard dans la nuit. Et demain matin, avec des températures de 6 et 12 degrés, un temps inégalement soleillé.
Rock'n'roll sur les routes du Maroc avec le son du souk, la voix des jeunes marocains, la voix démocratique bien sûr, l'assassinat du mouton en direct, et puis bien sûr on parlera de la politique marocaine, un pays à la monarchie aristocrate avec un peuple pauvre, un pays pauvre juste en dessous d'un continent riche, ça crée des envies, on va parler de tout ça. On va aussi écouter de la musique marocaine, alors c'est pas non plus le méga reportage de la mort, ça va être du survol, hein. Ça va être du carnet de route, du voyage quoi, on espère que ça va vous faire un petit peu voyager. Ce soir on squatte jusqu'à minuit, et ouais, c'est comme ça, c'est Marock'n'Roll.
Bon, allez, on y va.
Alors, on y va.
Rock and roll.
Oh yeah.
Rock and roll.
Le magazine musico, politico, drôlo, radiophonique. Et ben.
Nous sommes vendredi soir, le jour de la prière, et on va tenter une petite descente de la Médina au micro. À Tanger, hein. On est à Tanger. Vendredi soir, tombée de la nuit. Sort du Grand Soco pour entrer dans la Médina. Donc bah voilà, les médinas marocaines avec plein de boutiques, des vendeurs à l'arrache dans la rue qui vendent un peu de tout, des mouchoirs, là je vois des chaussettes, des montres, des collants, des écharpes, plein de choses. Vous parlez français ?
Espagnol.
Espagnol, pas français, hein. Chouïa français. Chouïa français.
Chouïa français.
Chouïa français.
Français.
Comment vous vous appelez ?
Qu'est-ce que tu fais comme ça ? Pourquoi tu seulement parle ?
Ouais.
Seulement le pas.
Seulement le son.
Elle est bon.
Bon.
Bon. Bueno. Ah, bueno. Allez, viens, moi, je vois un magasin, toi, tu discutes, moi, viens.
Ouais, j'ai rien à... Bon, il m'emmène, allez, j'y vais.
Le magasin pour les plantes médicinales, des berbères, il est parlé bon pour quelque chose de bon pour vous. T'as compris?
Ouais. Le monsieur qui m'emmène. On va voir un repos testé.
Rue Italie, ça. Pour le temps, je l'ai passé international, ça de Rue Italie, le quartier italien.
C'est le quartier italien ici?
Oui, ça de la terre allemande, ça. Où ça m'a été allemand entré là.
Pourquoi c'est le quartier italien? Il y a des Italiens ici?
Hein?
Pourquoi c'est le quartier italien?
Pour... Ah bon, Tanger international. Il y a des six espagnols, français, italiens. L'anglais, un portugais, il y avait là, pour le Tanger. Il est passé international en 1957-56, tout le monde est parti.
Oui, 56, l'indépendance.
Oui, liberté. Le Maroc, il est prêt de liberté.
Liberté?
Oui.
Et c'est vrai, ça? Alors, première sortie à Tanger, dans le nord du Maroc. Tanger, comme nous l'a expliqué ce vieux Chibani, un passé international. La ville a été occupée des années 10 jusqu'à l'indépendance en 56 par 9 États. Non pas 6, comme il disait, c'était l'Espagne, la France, l'Italie, l'Angleterre, le Portugal, les États-Unis, les Pays-Bas, la Belgique et l'Union soviétique. Depuis 56, la ville est de nouveau marocaine, mais elle reste très internationale. Frontière stratégique entre le nord et le sud. L'Europe et l'Afrique, on y parle l'arabe, le berbère, mais aussi le français, l'espagnol, l'anglais, le wolof, les dialectes nigérians. Et puis les grandes puissances y ont toujours de l'influence, à l'image de la construction d'un énorme port, le port Tanger Méditerranée, entre Tanger et Septa, Septa qu'on appelle aussi Ciota, qui est une enclave espagnole sur le sol marocain. Les travaux de sport, enfin le chantier de sport a été inauguré par Jacques Chirac il y a 3 ans. Les travaux ont débuté il y a quelques mois sous la haute direction de ce cher Martin Bouygues et de ses sous-traitants. Travaux qu'il faut bien l'avouer sont en train de dénaturer complètement le paysage côtier, côtes qui ont été fortement rabotées. Donc le Maroc indépendant avec des inaugurations franco-françaises, des entreprises françaises. Attention, Tanger. On continue de se balader dans cette médina. Les médinas, c'est les vieilles villes marocaines qui sont des véritables petits labyrinthes. Mais qu'il est bon de se perdre dans ces ruelles étroites et magnifiques dans lesquelles tous nos sens sont en éveil. Allô, allô. Alors là, j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit allô, allô. Allô, allô.
Ça va?
Ça va bien, toi?
Ouais, vous êtes français?
Je suis français.
Ah.
Et vous?
Je parle avec les messieurs.
C'est le monsieur qui parle français?
Mais pour moi, c'est le deuxième langue ici au Maroc.
Le français?
Oui. C'est la deuxième, après l'arabe. C'est
ouais,
la deuxième.
Ouais.
C'est ça. La deuxième, c'est comme ça. Comme d'abord. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé?
Ah, rien, qu'est-ce qui s'est passé?
Ah, la vie ici, l'ambiance. C'est une question de l'ambiance ici. L'ambiance, c'est bien.
L'ambiance, c'est bien.
Ah, c'est bien. Mais aujourd'hui, tu viens. Je crois qu'aujourd'hui, c'est vendredi.
Ouais, c'est vendredi, c'est le jour de la prière.
Ah, c'est le jour de la prière, comme ça, c'est pas beaucoup. Tu peux rencontrer des gens à autre lieu.
Ouais.
C'est pas ici au Madina. Même les gens après la prière, ils passent visiter les familles. C'est ça, la tradition ici.
Le vendredi, on reste en famille, tranquillement.
Comme... comme un week-end.
Voilà. Et vous, vous appelez comment?
Moi, je veux un Badri.
Badri?
Badri. L'arabe, ça comment on va, l'explication, what does it mean? Does it mean the moon in the 13? The moon when it is complete.
Okay.
You understand?
Badre?
Me? Yes, it's like this, Badre. Vas-y, attends. Tu veux qu'on va passer, s'asseoir dans un place où on va discuter. C'est comme ça, c'est mieux. On va parler ici, c'est pas mieux.
Ok, d'accord, ouais, je viens avec toi.
Tu viens.
Tu m'emmènes où? Dis-moi où tu m'emmènes.
Hein?
Tu m'emmènes où?
Tu viens visiter vous maintenant. Je vais te mener. On va promener un petit peu, on va parler. C'est comme ça.
Donc on est toujours dans la médina de Tanger alors que la nuit tombe. Très jolie médina avec Badré.
Ancienne.
Depuis quand?
Je crois parmi l'histoire c'est des 3000, 4000 années. C'est avant le qui naît l'autre. Comment dire, Jésus.
Avant Jésus.
Oui, avant Tanger, l'été. Parce que si tu pars là-bas où il y a le grotte d'Hercules, tu vas voir ça, c'est que tu vas dire que c'est vrai. C'est 3000. Même le tour de Médina, le mur et ça, c'est ancien.
C'est ancien, les remparts de la Médina. Hop, donc on s'avance dans les ruelles, il y a un peu moins de commerce par ici. Si on retrouve les commerces, les petites boutiques, le four à pain du quartier.
Four, qu'il fait dans le quartier. Ça, c'est Ali. Tu connais? Ça, c'est Ali.
C'est Ali, c'est la boutique d'Ali?
C'est la boutique d'Ali. Le bon Ali avec tout. Hein? Ça, c'est marche avec tout.
Il a tout. Ouais.
Même si tu as besoin de quelque chose, il t'a donné. Si vous avez rien et t'as donc, après tu le rends.
Il fait crédit quoi.
Ah, il fait crédit. Même il y a le grand bazar ici. Non, il fait crédit avec les gens qui sont pauvres.
Bien sûr, ouais. Les gens qui n'ont pas d'argent.
Ouais, pas d'argent. Dès que s'ils ont besoin de quelque chose comme ça,
il les aide.
Yeah. Même, tu vois, les ordinateurs ici à Jalé,
ouais.
Ils commencent par les petites boutiques des ordinateurs.
Des cybercafés, tout ça.
Ah ouais, des cybercafés, même le petit Madina.
Hop, rue Seca. Petite ruelle.
J'ai des amis africains.
Yes.
Ça va.
Ça va.
Salam alaikum.
Ça va
bien.
What's up now? How is it? This one playing music?
No.
What is happening?
Is it play radio, like speaker?
Yes.
This is what he speak me before. This one friend for me.
Nah, me I just follow. You just see me buy both for them. They not get bonus. That's okay. My pass them. I see you.
That will feel see better on the side.
Voilà, on me fait rentrer dans une maison assez jolie, je suis tout seul.
Ok, tu peux m'attendre là, tu veux cette ambiance là.
Tu veux cette ambiance là. C'est ta maison ici ou
hein?
C'est ta maison à toi ici.
On peut parler tranquille maintenant. J'ai né ici au Maroc, à Tanger, et j'ai fait mes petites études ici. Après, on vient d'un.
Badri.
Ah, hein.
I will be now, on Sunday.
Sunday,
Charles. My wife, I think you're talking today.
Yeah.
Les amis africains qui s'en vont.
Give me one pitch now. Give me one pitch
now. No, I will
give you now. Il lui demande un joint, visiblement. C'est plus tard.
Before me, come on for you. No problem.
Sir, my friend, see life, how it be, like this, one yellow, one white, one black, tous,
ensemble,
ensemble.
Les mêmes.
C'est comme ça. Comme ça.
Vas-y.
Salut. Alors tu me disais, t'as voyagé où? Alors c'est quoi ton petit tour du monde?
Je voyage jusqu'à l'Espagne, Portugal. Ouais, je suis au Maroc, Libye. You understand? Ouais,
en Afrique plus au sud aussi?
Là, ouais,
c'est
c'est pas mes, c'est les amis africains, vous savez. Les amis africains ici, on rassemble ici à Tanger parce qu'elle vient du sud du Sahara. Elle vient ici et elle veut que parte. Ouais, c'est ça. Ah, j'ai glace.
C'est pas facile pour eux, quoi.
C'est pas facile. Tous les jeunes, les noirs, ils viennent pour changer la vie. Tu comprends?
Ouais.
Ils croient quelqu'un, il est là-bas en France, ou là-bas en Europe, c'est une montagne d'or, comme El Dorado. Hein?
Tu comprends? Ouais, je comprends
El Dorado. Ouais, ils croient qu'il est El Dorado, mais c'est, ouais. Je crois qu'il est la même chose dans tout le monde. Ouais. Si vous avez un bras de fer, tu peux le faire quelque chose. Si vous n'avez pas un bras, ni métier, ni rien du tout, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Même, je crois que là-bas, même là-bas, il y a des gens qui n'avaient pas de travail, même des Français, ou là, des Espagnols, ou même des Italiens, même des Hollandais qui sont en train... chômage, on chômage. Me I go to speak with you in English, small. These people who come from down, mm-hmm. You understand, from Nigeria, mm-hmm. or maybe from Senegal, mm-hmm. Yeah, Malian, okay. When he reach Europe, I think what he go to do first is the crime. The girls he go to do prostitution, mm-hmm. Understand me? And the boys, maybe small work, or maybe thief, or do something bad.
Alors, il n'y a pas que les gens qui veulent partir chercher l'Eldorado, comme tu disais. C'est pas seulement les Africains du Sud, il y a aussi des gens du Maroc, des Marocains.
Mais pourquoi moi j'ai parti avant? C'est pour ça. Mais quand j'ai parti, j'ai trouvé que si j'ai ici 15 euros pour le jour, c'est mieux de gagner 100 euros en France. Moi, je préfère de gagner 15 euros ici à Tanger, c'est mieux de gagner 100 euros par jour en France.
Mais les gens qui viennent par exemple du Sénégal ou du Mali, qui viennent en France, eux, la majorité de l'argent qu'ils gagnent, ils le renvoient à leur famille en Afrique.
Je crois, c'est pas le. Je crois que oui. Je suis d'accord avec toi dans cette.
Parce que là-bas, il y a pas d'argent. Enfin, ils sont souvent, c'est parce que voilà, ils ont plus rien à manger. Ils sont obligés de se jeter dans la gueule du lion, de se jeter dans le détroit de Gibraltar pour aller chercher de quoi survivre. Quoi.
Si tu parles avec quelqu'un ici marocain ou africain, il va te dire d'où vient cette chose. D'où vient cette misère? Parce que l'Afrique, avant tout, il est occupé avec les Européens. Peut-être c'est ça que les personnes n'arrivent pas de faire bonne étude, de faire des bons travail, de faire.
C'est au Maroc, il y a un chômage technique, comme on dit. Parce que actuellement, la plupart des jeunes, qu'est-ce qu'ils rencontrent? Ils rencontrent des problèmes de leurs grands frères, les aînés. Comprenez? Donc, ils ne trouvent pas. Il a fait ses études, il a terminé, il a eu son licence ou bien son doctorat, et puis il demande du travail. Il n'y a pas de travail. La police le tape dessus. Pourquoi tu demandes du travail? Reste chez toi. Donc, les petits, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont penser à l'immigration.
Ouais.
N'importe quel prix. C'est ça.
Même avec un doctorat, même avec des études et tout ça, quoi.
Et bien sûr. C'est pas les diplômes qui donnent le métier, non.
C'est les pistons.
Bon. En France. Dans le border, le border avec un autre pays,
la frontière,
tu vois des milliers, des petits gamins, 15 années, 13 années, qui sont prêts pour partir à autre pays.
Non.
Non. Moi, je le vais et cette chose me fait mal dans mon cœur. Pourquoi on va perdre le futur du Maroc comme ça? Tu vois le futur du Maroc, les gens qui sont en train de passer au-dessus d'un camion ou nager à peu près un mile ou un demi-mile pour avoir cette corde de bateau, pour avoir le corde de bateau pendant la nuit pour le port. Tu peux voir cette chose chaque nuit ici. Chaque nuit, tu peux le voir cette chose. Pourquoi les gens sont en train d'escaler?
ولدي وزيد الجيران اللي المعنهر وانا حيران لك غضوة لا دلال بحر وحدي في المدينة خايفنا من ذوق الناس قطعت البحر وزدت البلدان نوي نخدم ونرجع فنان حكموا علي انا بقارة وقاع من اميرة غبار رايح دير التوين هارب انا باغي نعيش في بلاد ايراني محقور وفي الغربة راني مقهور
Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Me dicen el clandestino, yo soy el que da ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, argelino clandestino, marihuana ilegal.
Moi j'allais le hukmok. Et y'a hukmok. Maintenant que je sais pas, batach fransa.
Il m'a un harwan à Hiran, la darleta ou il m'a ban. La dirani m'hago, tu fais le gourba.
El Gafla avec El Clandestino et la participation de Manu Chao. On pouvait s'interroger si c'était une participation juste un remix. Ils ont peut-être juste repris les voix. Et ce soir sur Radio Canu, on rock'n'roule sur les routes marocaines, émission spéciale Marocaine-roule. Après cette petite entrevue, cette petite visite de la Médina de Tanger, nous voilà à Rabat, capitale administrative du Maroc, et nouvelle rencontre avec Jawed, le plus lyonnais des Rabatis. Alors, on est dimanche 25 décembre, lundi 25 décembre 2006, sur la terrasse de la Casbah de Rabat avec comment tu l'appelles ?
Casbah des Oudaya.
La Casbah des Oudaya, avec une magnifique vue sur. sur Salé, donc de l'autre côté du fleuve qui sépare Rabat et Salé, et puis sur la mer, l'océan Atlantique. Et hier, en baladant, j'ai croisé un Lyonnais, en fait. Un Lyonnais qui s'appelle Jawed.
Un Marocain Lyonnais.
Toi, Jawed, t'es de Rabat, déjà. C'est ta ville, ici.
Ouais, en fait, c'est ma ville natale, ici, à Rabat. Et voilà, j'ai vécu à Lyon pendant 5 ans. J'ai une famille là-bas, une petite fille adorable qui s'appelle Camélia Lafrigui. Voilà, je l'ai passé les bons jours, malgré... Ce que ça se passe dans les papiers et tout ça, on tient toujours en vie notre vie et en espérant que ça change, ben voilà, on reste tranquille ici à Rabat, on passe du bon temps, on rencontre des amis, on passe du temps avec. À l'âge de 14 ans, j'ai eu mes études dans un centre de redressement à Sète, Cristo Rey.
En France
à Ceuta, en Espagne. Ceuta, en Espagne. Ben, j'étais en centre de redressement là-bas.
Est-ce que t'as fait une connerie ou...
Ouais, je fais une connerie dans la rue. Je volais un poste radio. Et ils m'ont coincé, ils m'ont ramené au centre de redressement, quoi. J'ai étudié un petit peu mon espagnol là-bas et tout. Et après, je montais en Espagne. J'ai fraudé en rentrant en Espagne, j'ai resté là-bas toute ma jeunesse. J'étais un résident quoi, en Espagne. J'étais à Madrid, j'ai de la famille là-bas à Madrid, à San Blas. Et après, j'ai travaillé dans la foraine à Alicante. J'ai travaillé là-bas pas mal. Je démontais le manège des enfants. J'avais pas les papiers, mais j'étais toujours affiché. Ils me connaissent, le service de police et tout. Et après, je suis revenu ici à Rabat, je travaillais un petit peu. Je travaillais dans une école, j'avais un pote à moi. On travaillait dans une école, dans des cours d'espagnol et tout. On était comme associés un petit peu. Et après, j'avais un petit peu de fric. J'avais les moyens de faire mon visa. J'ai fait mon visa, j'ai sorti pour... J'avais l'intention de... C'est pas de améliorer ma situation, trouver des jobs que ça paye mieux.
Alors Lyon?
Lyon, c'était 5 ans derrière. Voilà, j'ai grandi un petit peu là-bas, la partie vers... J'ai fait un parcours de vendangeur dans le Beaujolais. J'ai fait des petits travaux de maçonnerie, de plaquiste, d'électricité en black. J'ai rencontré une fille qui s'appelle Ashinora. Je me suis marié avec elle, à la religion. Voilà, et après il s'est retourné contre moi. Il ne veut pas se marier à la mairie et tout. Il m'a fait chier, je travaillais en noir. Pendant X temps, voilà, j'ai un parcours un petit peu difficile. J'ai pas vécu des choses fort, mais ça m'a marqué de travailler en noir, de galérer en France et tout. Et voilà, je vivais comme tout le monde. Je rentrais à ma maison tôt.
Tu vivais avec ta famille?
Ouais, j'étais avec ma famille à Villeurbanne. Et après, j'ai habité le 8e. Et c'était pas mal, c'était une belle vie. Après, ça a tout cassé. À cause des problèmes familiers. Voilà, ils m'ont cassé notre couple. Et voilà, maintenant, on est séparés, tout tranquille.
Alors, quand tu t'es séparé, tu t'es retrouvé dans un foyer ou...
Je me suis retrouvé dans pas mal de foyers à Lyon. Et en fait, moi, j'aime pas vivre dans les foyers parce que ça me touche la misère des autres. Ça me fait souffrir. J'étais toujours quelqu'un qui voyage dans les villages. J'étais quelqu'un qui travaille la terre. Mais voilà, j'ai toujours trouvé du travail tranquille. Même si c'est pas pour devenir riche, mais pour subir à mes besoins, j'étais tranquille. pendant les événements, vous savez très bien, les lois elles sont devenues très sévères. J'ai un cousin qui a vécu avec moi là-bas au foyer, il est encore jeune. Voilà, il a dérapé lui aussi.
Alors, qu'est-ce que tu appelles déraper ?
C'est bagarré pas mal là-bas au foyer. Et voilà, on a été affiché comme quelqu'un qui se tient pas à carreau. Et j'étais affiché à cause de mon cousin, voilà. Et j'ai revenu, je voulais pas passer 6 mois de prison et après sortir en France. Je vois pas pourquoi je vais passer la prison alors que j'ai rien fait. Je voulais pas vivre dans la prison parce que j'étais quelqu'un innocent et ici la France il veut pas de moi. Alors que je suis un père français, ben je rentre dans mon pays tranquillement, je refais ma vie de zéro comme je suis en train de faire maintenant, tranquille.
T'as fait un truc ou qu'est-ce qui s'est passé exactement
dans la préfecture
quoi?
Et c'était toujours avec une chef de service qui me dit voilà, il faut une cause qui tient bien que pour vous donner les papiers. En fait, c'était toujours pour m'endormir, pour ne pas me donner mes droits. Et moi, je savais le coup de théâtre qu'il me faisait. Alors, je restais, j'attendais. Et à la fin du compte, ils m'ont dit, voilà, pendant que vous étiez à l'étranger, vous n'entretenirez pas votre fille, alors que moi j'étais toujours à ses côtés.
Tu nous parles des événements, donc c'est les événements de novembre 2005 où la banlieue s'est un petit peu enflammée, et tu fais un lien entre ces événements et le moment où ça a dérapé pour toi. Qu'est-ce que...
En fait, moi ce lien-là que je fais, c'est que ça a dérapé, c'est normal, parce que voilà, il y a 2 gamins qui se sont fait électrocuter. Et voilà, la jeunesse, il a voulu passer un message que assez de répression sur eux, parce que moi aussi j'ai remarqué que dernièrement il y a trop de contrôle de papiers. Chaque fois tu vas à la part Dieu, tu vas en ville, tu es pas tranquille, toujours tu es harcelé par la police. Des fois, moi la dernière fois pendant les événements, j'ai eu un contrôle et un policier, un rebeu aussi, il m'a sorti un morceau de chichon et il m'a dit ils appartiennent à qui ça? Vous voyez un petit peu où ça dérapait. Et nous, on est en train de payer les plats cassés pour nos enfants. Nos enfants, ils se sentent pas en liberté en France. Ils sont en train de brûler le tout. C'est triste. Les gens, ils ont des sentiments, ils ont plein de trucs. Ils ont l'habitude d'avoir leurs droits en France. C'est pour ça, dernièrement... Vu le manque de conscience du système, ben c'est pour ça que ça a dérapé, je crois.
Sous ta bagage, citerne ou cale de bateau, camion de marchandises, faux passeport, traversé à radeau, expulsion, extradition, demande naturalisation, exode, exil, asile et centre de rétention, rêve de Roro, pour pas finir au bled comme un rat, la peste ou le choléra, le destin le dira, à la recherche du Graal, du Nirvana, de l'Eldorado, changer la merde en or, cauchemar en rêve, et le dinar en euros.
Pendant mon arrestation, c'était tranquille, il n'y avait pas la fameuse rébellion. Tranquille, voilà, je me suis laissé accompagner jusqu'à l'aéroport, jusqu'à Satolas, j'ai dormi 2 jours là-bas.
Au centre de rétention?
Ouais, dans le centre de détention. Et voilà, et le lendemain, ils m'ont accompagné à l'avion et je me suis retrouvé à Casablanca. J'ai passé 3 jours là-bas dans le commissariat, pénible, alors que j'avais mon visa. J'ai quitté le territoire avec un visa. J'étais traité comme un clandestin.
Donc l'avion, alors on dit en France, quand on expulse les gens, normalement on leur donne un peu de sous quand même.
Non, ça c'est pas vrai, c'est que des mensonges. Moi, j'ai vécu en France, j'ai cotisé et tout, et voilà, d'un coup on me lâche au Maroc. Sans sous, sans rien du tout, je me débrouille avec les moyens des bords comme ils nous ont appris là-bas en France.
ils n'ont pas de thunes, ils n'ont rien filé quoi.
Rien du tout, c'est vraiment des mensonges. C'est des mensonges du système qui arrête pas de raconter des mensonges quoi. J'ai eu le sort d'être rapatrié à ma patrie et de laisser ma fille là-bas et voilà, je continue la vie, et je suis tranquille, normal.
Tu nous as raconté l'histoire lyonnaise et puis les histoires, les émeutes, l'expulsion, tout ça. C'est vrai qu'en France, il y a la politique de plus en plus dure de vouloir expulser les clandestins qui travaillent en France, qui ont leur famille. Et c'est intéressant de te rencontrer parce qu'on voit les conséquences du truc. Toi, tu te retrouves maintenant à Rabat sans grand-chose, quoi.
Bah ouais, c'est ça le problème, c'est que tu te trouves à zéro dans un pays qu'il faut que tu t'intègres. Une autre intégration, c'est pas l'intégration des papiers, c'est l'intégration de s'entendre avec les gens, avec l'ambiance que ça tourne ici au Maroc. Et voilà quoi, c'est pas facile. Il faut encore 2 ans, 3 ans pour un minimum 2 ans pour se trouver ici, trouver un job et tout. Voilà quoi, c'est pas facile. Si tu fais une vie et après on te casse cette vie pour refaire une autre vie, c'est pas facile, je pense. Ça prend des temps.
Du coup, là maintenant, toi, tes objectifs, c'est de monter un truc ici ou c'est d'essayer de repartir pour la France ou...
Toujours, il y a le pensée de regagner Paris. C'est ça l'objectif dans ma tête, c'est qu'un jour ou l'autre, je vais gagner mon Paris, quoi. C'est tout. Mais ici au Maroc, j'ai la certitude que je vais trouver quelque chose, je vais monter quelque chose tôt ou tard. Parce que si j'ai arrivé à faire quelque chose en France, je ne vois pas ici dans mon pays l'obstacle qui va m'empêcher. Oui. Heureusement, j'ai de la famille ici. Voilà, ils m'ont aidé un petit peu. Ils m'ont trouvé un petit job. C'est un job de gardien de nuit et de jour. Et voilà, j'ai loué pour 2 mois. Et là, maintenant, je suis en train de manger le cerveau et comment s'y faire pour payer les 2 mois prochains de la location. C'est ça mon but pour le moment. Après, on verra. Comme on dit, Alhamdoulilah, merci à Dieu. On est toujours la tête haute. Et moi, j'espère que la France elle aura un président comme l'abbé Pierre. Ça sera moins pénible. Je passe le bonjour à Bronx, à qui encore, il faut que je me rappelle, à Hussein, à toute la à Ramla. À toutes les potes de 8e, quoi, du boulevard, à Parcadère, parce qu'il fait exploiter des gens. Les chanteurs, les écrivains, les acteurs, la population, tous, ils ont une seule maladie. Et tous, ils savent que leur maladie, ça commence par S. Que notre maladie, ça commence par S. Je te dis rien, c'est Sarko, la mère.
Ouais, tu sais que maintenant, il y a un autre S. Il y a le S de Ségolène aussi.
Ségolène, bah, ce sera la même. Ce sera la même. Ce sera un autre poison à avaler. Un autre mauvais verre.
You're my shimmer now.
Comme on dit, alhamdoulilah, la vie continue.
Jaoued croisé dans les rues de la Médina de Rabat, un exemple intéressant, expulsé de France vers le Maroc. Alors il nous raconte pas tout, il nous explique pas clairement quel a été l'événement déclencheur de cette expulsion, mais c'est un exemple parmi les milliers d'expulsés de l'année 2006 depuis la France. Et pendant que Jaoued nous racontait son histoire fin décembre sur la Casbah de Rabat, la police marocaine arrêtait dans la même ville 240 subsahariens. Elle les a expulsés, à la différence de la France, qu'au lieu de les mettre dans un avion, dans un charter, on les a mis dans un bus jusqu'à Oujda, dans l'est du pays, où on les lâche à la frontière algérienne. Comme nous le dit le quotidien marocain L'Opinion, le Maroc applique un principe consistant à expulser les immigrés clandestins vers le pays qu'ils ont traversé pour entrer dans le royaume. Le journal Libération, quant à lui, alors je parle du journal Libération marocain, il y a aussi un journal qui s'appelle Libération là-bas, qui n'a rien à voir avec le Rothschild Newspaper de chez nous. Dans le journal Libération marocain du 4 janvier, on nous dit que ces expulsés reviennent pratiquement tous immédiatement sur le sol marocain, puisque les douaniers algériens ne veulent pas non plus les voir. Donc des milliers d'Africains subsahariens errent, nous raconte le journal, de part et d'autre de la frontière algéro-marocaine, pour la plupart du temps se retrouver dans d'immenses camps de réfugiés à Oujda au Maroc. On sait que le Maroc n'est qu'une étape pour tous ces candidats à l'immigration européenne, puisque le pays n'a pas grand chose à leur offrir, question richesse. Le Maroc est parfois même plus pauvre que les pays d'origine de ces immigrants, mais l'État marocain a applique les accords qu'il a signés avec l'Union Européenne l'été dernier, accord euro-méditerranéen sur l'immigration, et le Maroc expulse, alors que nombre de Marocains sont eux-mêmes candidats à l'immigration clandestine vers l'Europe. Bref, c'est une histoire à devenir schizophrène. Et justement, voici le morceau Blood Schizo, un peu de rock'n'roll alternatif marocain, le groupe Hoba Hoba Spirit, qui nous vient de Casablanca, sur Canu.
فيها واش عندكم شي ستار كي بقيت الحاجه واش خاصك شي مكانه ايوا تحاول الاختفاء واش مازال امريطا تعلينا اخر كلمه في الكاس ولا في الطاس خويا وزن ولا مازال ليزون ولا ديازال شحال تلقى جوال وفي نص الجمال واش هاد مولطو كيفاش على طامو علاش جبرت البوطو فوقاش غادي نعيدو dum 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 dum
ici?
Au Maroc.
Ben oui, la vie, à ton avis. Qu'est-ce que tu penses, toi?
Et j'espère bon séjour dans ce pays, dit Maroc, qui certains disent qu'il passe du noir au gris, mais on peut toujours évoluer.
Maroc and roll.
Une rue piétonne dans la médina de Rabat, une rue assez étroite. À droite, à gauche, des boutiques aux vêtements, aux épices, aux olives, aux cassettes, aux disques, etc., etc. Et au milieu, par terre, un autre marché où on trouve de tout. Marché aux puces, marché à l'arrache, lunettes de soleil, paquets de mouchoirs, gants de toilette, cigarettes, etc., etc. Et le reste de l'espace, c'est la foule qui déambule, et en déambule avec elle. C'est le son du souk de Rabat. Fermez les yeux pour les images. Allez, on s'éloigne quelque peu de ce souk animé, on sort de la médina de Rabat, une vieille ville délimitée par des remparts, et nous voilà à Bab el Had, la porte de Had, centre névralgique de la ville, placé pile entre la médina et le centre-ville moderne. Et à Bab el Had, il y a du monde. Qu'est-ce qui se passe ici ? Donc voilà, nous sommes dimanche 24 décembre au centre-ville de Rabat, devant la Médina. Et alors qu'en France, le 24 décembre, c'est les dernières courses de Noël. Ici, justement, on réclame plus d'argent, manifestation pour le pouvoir d'achat, organisée visiblement par les syndicats ouvriers, avec Attaque Maroc, avec l'association pour le respect des droits de l'homme au Maroc. La M des droits humains, la MDH.
C'est une manifestation contre l'inflation, c'est-à-dire l'augmentation des prix de toutes les choses ici au Maroc, l'augmentation des prix. Ce qui a touché toute la population marocaine dans tous les niveaux. Alors on trouve que les conditions sont catastrophiques.
C'est quoi ton drapeau?
Oui?
C'est quoi ton drapeau?
Moi, un drapeau Che Guevara.
Che Guevara.
Okay.
T'es un guevariste?
Oui. Non, je suis un marxiste-léniniste, mais guevariste appartient au courant marxiste. Toujours il appartient au courant marxiste.
Et la marche, elle va où, là?
Vers le Parlement. Alors, toujours devant les députés des peuples, ce sont députés qui sont ilés d'une manière, qu'on veut savoir, d'une manière falsifiée. Il y a la corruption, il y a aussi au Maroc, il y a toutes choses qui ne disent pas aussi au monde.
Ouais, les slogans là, c'est Wahed Zourt Leta, c'est quoi qu'ils disent?
1, 2, 3, nous sommes contre la privatisation. 1, 2, 3, nous sommes Wahed Zourt Leta. Ndiro Khawsa. Wesh Ndiro Daba. Ndiro Khawsa. 1, 2, 3. On est privé, alors ils font la privatisation. On est privé d'autres choses, alors ils font toujours la privatisation.
Alors voilà, toujours dans cette manifestation pour le pouvoir d'achat avec un maximum de communistes quoi. Plein de drapeaux rouges avec le marteau Lafossi, de drapeaux du Che, beaucoup de kéfiers aussi, une organisation assez marrante. Il y a genre un grand meneur des slogans qui se balade avec son mégaphone sur toute la manif et qui lance sur tout le long du cortège les mêmes slogans. Bon, c'est pas toujours suivi, certains préfèrent garder leur slogan. Pourquoi vous êtes dans la rue aujourd'hui ?
Parce que les difficultés, les peuples souffrent, ils souffrent beaucoup. Et tous les prix augmentent jour après jour. Et les pouvoirs marocains n'intéressent pas de toutes ces choses-là. Et les peuples manifestent aujourd'hui pour montrer au peuple, à tous les peuples, que le peuple marocain souffre et que le peuple marocain n'accepte pas ces choses-là. Merci.
D'accord, merci, bonne marche. Alors là, on arrive au cortège attaque, un petit peu plus jeune, festif. Ça tape sur des casseroles et une guitare. Ça distribue des petits magazines marqués « Un autre Maroc est possible ».
Oui.
Ouais. Comment tu t'appelles ?
Omar.
Omar, et t'as un drapeau Attaque ?
Oui.
Alors c'est quoi Attaque ?
Attaque, c'est l'association pour la taxation des transactions financières pour l'aide aux citoyens. Son champ d'action s'est élargi depuis sa création et sa nomination ainsi. Et puis c'est devenu une association altermondialiste qui travaille sur les effets pervers de la mondialisation sur les populations locales des pays du tiers-monde ainsi que des pays développés. Et parmi ces effets pervers, la hausse des prix qui a opéré au Maroc ces derniers temps, une hausse de prix qui est vraiment très importante, qui est de l'ordre de 3%, une inflation de 3% par mois, et qui va vraiment faire des catastrophes dans les classes les plus laborieuses et les plus pauvres du pays, puisque le pays a 50% de population qui vit avec moins d'un dollar par jour. Donc ça va poser un vrai problème et ça craint de devenir vraiment c'est-à-dire cette contestation va devenir de plus en plus importante et grave prochainement si l'on ne trouve pas des solutions immédiates à ce problème de libéralisation de l'activité économique au Maroc, qui est accompagné par une corruption et par un système antidémocratique et antipopulaire qui ne sert qu'une minorité de gens qui ont des intérêts dans ce pays. Et cette minorité même, c'est elle qui fait les lois, c'est elle qui fait tout, c'est elle qui emploie, c'est elle qui fait tout. Donc cette manifestation, c'est une remise en cause de l'ordre établi au Maroc, c'est une remise en cause de la politique économique menée au Maroc, ainsi de toutes les politiques menées au Maroc.
Est-ce que tu peux me traduire deux, trois slogans, deux, trois...
Oui, d'accord. Comment il s'appelle ? Ni hôpital, ni médecin, pas un dirham dans ma poche. La sbétale, la tchoubèbe, le dirham indivisible. Population, révolte-toi contre le système dictatorial. Quoi d'autre ? El pueblo unido jamás será vencido. Le peuple uni ne sera jamais vaincu. C'est universel ça. Quoi d'autre ? Les services publics sont en danger avec la privatisation, etc. Avec la Lyonnaise des eaux et Redal, etc.
On est optimiste au Maroc ?
Pas trop. Vous voyez que cette manifestation, c'est que de l'élite vraiment associative. Il n'y a pas vraiment de la population qui arrive. Mais dans les patelins, les régions lointaines, il y a une vraie mouvance, une vraie dynamique de contestation. Par exemple, au sud du Maroc, toute la population sort pour faire une manifestation. Il y a de la vraie conscience politique, pas politique, mais une vraie conscience de contestation. Il faut que nous trouvions une solution à nos problèmes, et donc ils sortent. Mais à Rabat, à Casablanca, c'est vraiment impossible. Il y a aussi de la manipulation, il y a la répression, etc. Ce qui ne permet pas d'avoir une réelle radicalisation du mouvement.
Toi, tu serais pour que ça soit plus radical? Jeter des cocktails Molotov, tout ça?
Moi, je suis pour, mais quand les conditions seront vraiment favorables, quand nous serons vraiment trop nombreux dans la rue, et que nous serons décidés à ne pas rentrer chez nous la nuit, et quand on verra vraiment quelque chose, une lumière vraiment assez proche, on utilisera ça. La désobéissance civile, etc. Oui, je suis pour.
T'es étudiante?
Oui, je suis étudiante.
En quoi?
En économie-gestion, troisième année à l'université.
Tu peux me décrire un petit peu comment t'es habillée? Je vois que t'as un pendentif du Tché, un drapeau communiste.
Oui, donc là, je porte un t-shirt avec le symbole du... comment vous appelez ça?
La faucille et le marteau.
La faucille et le marteau. On l'appelle Metraqa ou le Minjel. En fait, c'est un symbole. La faucille, c'est un symbole des agriculteurs, et le marteau, c'est pour les ouvriers, pour les... Donc, et là, c'est le Che Guevara. C'est le symbole de la révolution, de la liberté, et de la liberté des prolétaires, en fait. D'accord. Donc, je fais partie.
Et t'as aussi une bouteille de lait vide?
Pardon?
T'as aussi une bouteille de lait?
Oui, tout à fait, c'est une bouteille de lait vide, c'est une façon d'exprimer la hausse du prix du lait. Parce qu'on a passé de 3 dirhams, on a ajouté en fait 50 centimes pour la bouteille de lait. Donc juste pour
montrer quoi.
Pour montrer cette hausse du prix de lait.
Merci beaucoup, tu t'appelles comment?
Nidal. Bon, cette Nidal se veut dire militantisme en français. Montrez-le.
Donc voilà, le cortège arrive devant le Parlement marocain de Rabat, qui n'est pas excessivement gardé par la police. Il y a quelques gardes anti-émeutes, un tous les 10 mètres, genre il n'y a pas de grande barrière de chars anti-émeutes, de mecs prêts à balancer des bombes lacrymo, comme on l'avait en France. Mais tout à l'heure, je me suis baladé un peu dans les rues, c'est vrai qu'il y a pas mal de fractions policières qui sont un peu cachées, prêtes à intervenir. Mais le Parlement... Si tout d'un coup la foule décidait de rentrer, pourrait. Hein. Donc voilà, il y a encore la voix démocratique qui lève encore ses drapeaux, qui crie encore, mais c'est la fin de la manifestation sur cette place sous le soleil de Rabat. Il fait bien chaud.
Toujours le voix démocratique qui finit la marche. Toujours elle reste le dernier.
C'est vrai que par rapport à la France, c'est vraiment festif. Les gens s'arrêtent plus de crier, de lever les drapeaux. On s'arrête plus, alors que chez nous, c'est quand même beaucoup plus calme. Plum, plum.
Par rapport à la France?
Ouais.
Je sais pas pourquoi. Normalement, nous sommes tous, disons, qu'on a cherché une chose qui... Je suis désolé parce que je sais pas comment je dis ça. C'est moi.
C'est les mêmes objectifs, quoi. Les mêmes.
Ouais. Justement, c'est le même objectif.
On attend la fin de la dispersion pour voir si tout se passe bien. C'est vrai qu'il y a quand même quelques gardes policiers qui sont tranquilles, ils ont pas les casques. Il y en a 8 pour garder la grande rue de 8 voies, donc c'est pas énorme. Par rapport à ici, puis les gens s'assoient, commencent à discuter. Voilà pour cette petite manifestation Maroc-Kenroul à Rabat. Toujours à l'écoute de Radio Canu, en plein centre-ville de Rabat, pour cette manifestation qui a donc eu lieu fin décembre. Si vous venez de nous rejoindre, vous l'aurez compris, ce soir, émission spéciale, émission carnet de route, émission voyage au Maroc. Il n'y aura pas d'électropopie ce soir. Le mix électro du lundi soir reviendra la semaine prochaine dès 23h. On en profite pour squatter un petit peu jusqu'à minuit. C'est Maroc and Roll. À Rabat à l'instant pour suivre cette manifestation contre la hausse des prix des produits du quotidien, une manifestation à forte dominante communiste avec la voix démocratique qui est la plus grosse organisation communiste du pays. Alors ça paraît banal pour nous français habitués du pavé, mais ça l'est pas. C'est pas souvent dans l'histoire du Maroc qu'on a pu voir une manifestation comme ça, très organisée, autorisée par les autorités, puisque la voix démocratique est un parti qui est né sur les cendres d'une organisation appelée Ilalam. En avant, organisation clandestine sous Hassan II, organisation dont nombreux militants ont été enfermés, réprimés et torturés en prison au Maroc pendant les années de plomb, les années 70 et 80. Donc c'est assez intéressant de se retrouver dans une manifestation communiste aujourd'hui au Maroc et de voir les effets de cette libéralisation nouvelle, libéralisation de l'expression au Maroc, une libéralisation très limitée, évidemment très surveillée. La répression est quand même souvent là. En tout cas, c'est aussi surprenant en tant que touriste occidental, en tant que gaouri, comme on dit là-bas, de rencontrer des communistes comme ça au Maroc. Pour nous, Européens, arriver devant nos télés, les reportages sur le monde arabe cultivés par des clichés que peuvent véhiculer les guides touristiques comme le Routard ou le Lonely Planet, on s'étonne de voir les Arabes faire autre chose que de se consacrer à leur religion. Alors j'exagère, mais il y a un peu de ça quand même. Alors manifestation contre la hausse des prix, mais aussi contre les privatisations et contre le système capitaliste en général, qui continue de bouffer tout sur son passage. Les services publics sont en train d'être laminés au Maroc, alors que déjà à la base, c'est pas terrible. Par exemple, il n'y a que 15% des Marocains qui ont une assurance maladie. Alors les services publics sont quand même privatisés, la téléphonie est vendue au profit d'entreprises françaises, l'eau aussi, on l'a entendu, Vivendi est pas très loin. Bref, tout ça pour nous ramener sur le capitalisme et les délocalisations. Délocalisation de chez nous vers le Maroc, où on travaille à moindre coût pour des entreprises européennes. On a 2-3 exemples, on commence avec Rafid, qu'on a déjà entendu dans la manifestation, qui lui travaille dans une usine de Ksar El Kebir, petite ville au nord du Maroc, entre Tanger et Rabat.
Mais je suis à Ksar El Kebir, ça fait 5 ans. Je suis marié avec une femme d'origine espagnole. J'ai une petite fille, et 2 ans et demi. Je travaille à l'usine de Ricard, qui s'appelle Ksar El Kebir, c'est le Québec. Je suis le secrétaire général du syndicat, du bureau du syndicat à l'usine. On a trouvé beaucoup de problèmes avec les étrangers, avec les Allemands, les Portugais, les chefs personnels, les directeurs et le directeur général. On a trouvé le problème de racisme.
Alors cette usine, c'est une usine qui appartient à des Portugais, c'est ça? Elle est à qui cette usine?
Cette usine, elle est déjà au Portugal, après il finit au Portugal, il finit le travail au Portugal, après il ramène l'usine au Maroc pour profiter. Parce que le salaire au Maroc est pas bien. Ouais. Non, profiter ça.
Donc comment ça se passe? Il y a les patrons, c'est des Portugais, des Allemands ou...
Le patron, c'est un Allemand. Elle prend la nationalité suisse, la Suisse. Et le directeur, c'est allemand. Le directeur général, c'est allemand. Et les chefs personnels sont des Portugais.
Et le principal problème, tu me disais, c'est le racisme.
Ouais, c'est le grand problème pour nous.
Tu peux nous donner un exemple du racisme?
Ouais.
je parle avec un chef personnel portugais, des choses de, dans les choses de travail. Elle est mal disciplinée avec moi. Elle dit des choses mal disciplinées. Je dis ça, le directeur ne change rien. Après, je fais la même chose avec le portugais. Je fais un avertissement de 7 jours. Bon, il y a beaucoup de choses, mais je trouve un problème de la discussion.
Oui, Afid ne parle pas super bien français, alors moi je parle pas du tout marocain. Chouïa, mais pas du tout. Mais bon, on se débrouille quand même pour se comprendre. J'espère que vous captez un petit peu ce qu'il raconte, même si vous n'avez pas les gestes et les images. Il continue de nous raconter un petit peu ses conditions de travail dans cette usine de chaussures délocalisée.
Ouais, on a travaillé 9 heures. Et il y a des jours qu'on a travaillé 10 heures. Et on a travaillé le samedi quand même. On ne prend pas le congé comme les gens. Il n'y a pas de CNSS, il n'y a pas de la mutuelle.
Alors pour un ouvrier qui, tu disais, qui travaille 44 heures par semaine, c'est ça?
C'est la loi.
Ouais.
Ouais, 44 heures. Mais nous sommes travaillés, je crois, 54.
54?
Ouais.
Toutes les semaines?
Oui, toutes les semaines.
Et pour le salaire, c'est combien?
C'est 2000 dirhams.
2000 dirhams, donc ça fait 200 euros.
200 euros, oui. Ouais.
Et ça suffit pour vivre au Maroc?
Toi, tu vois, la vie est très chère au Maroc. Vraiment. Mais le salaire, ça marche pas avec le salaire. C'est ça.
Alors, l'usine, elle fabrique des chaussures, tu m'as dit?
Oui, elle fabrique des chaussures. C'est un grand marque au monde. Il s'appelle Ricard. Il est fabriqué de 42 pays. Oui. Il y a 8 usines dans le monde. Il y a un Tunisien, au Maroc, et Vietnam, et Tchèque, Slovénie, et la Roumanie. Et il y a au Maroc Al-Qsar et l'Arache. Oui.
Et après, les chaussures, elles sont vendues au Maroc ou elles sont vendues
Non, ce sont de l'export. Mmh. On ne fabrique pas au Maroc. Parce que c'est cher.
Ouais.
Les chaussures, les 120, 1400, 1020.
Dirhams.
Ouais, 1000 dirhams.
Donc en fait, une paire de chaussures, c'est pratiquement un mois de salaire de l'ouvrier.
Ouais, justement. Il y a des chaussures qui 200 euros. Ouais.
Des chaussures qui?
Qui... Il y a des chaussures qui 200 euros. 200, 150, 160, etc. Bon,
fabrique des chaussures de luxe au Maroc, on les vend en Europe et une paire de chaussures correspond à un mois de salaire d'un ouvrier qui la fabrique. Cool. Capitalisme style.
لو في عقلي صورة للحسن وحده كنت أنا.
Autre type d'entreprise européenne et en l'occurrence française délocalisée au Maroc, un secteur plus branché cette fois, c'est dans la téléphonie. Et c'est Mourad de Meknès qui nous raconte ça. Alors toi, tu fais quoi, Mourad?
Moi, je fais du télémarketing. Donc, je suis TA, qui veut dire téléacteur. Donc, je fais de la télévente. On travaille avec une clientèle française, plutôt.
Donc, c'est un centre d'appel qui est situé au Maroc et t'appelles en France.
Voilà, tout à fait.
Pour quelle entreprise?
Pour Bouygues Telecom.
Donc tu vends des forfaits?
Ouais, des forfaits, voilà.
C'est une entreprise française, tu vends des trucs aux Français, ouais. Mais c'est au Maroc, donc c'est un truc délocalisé, c'est ça?
Voilà, tout à fait. Donc, vous savez, donc, ici au Maroc, les conditions sont favorables pour les centres d'appel. Donc, la main-d'œuvre ne coûte pas vraiment cher. En plus, pour les locaux, donc, c'est à la portée. Et voilà, donc... Il y a aussi le facteur de la francophonie. Justement, au Maroc, Il y a plus de gens qui maîtrisent le français que... par rapport, enfin, par rapport à nos confrères algériens, tunisiens, sénégalais. En quelque sorte, ça, l'accent reste plutôt neutre. Voilà.
Parce que le but qu'on t'appelle en France, c'est que les gens, ils savent pas que toi, t'es marocain, que t'es au Maroc.
Oui, tout à fait. Donc, on essaie d'utiliser un pseudo, un nickname, en quelque sorte. Donc, par exemple, faut se nommer... bon, on essaie d'utiliser un pseudo qui est unique pour tous les terres. Et vu qu'il y a un effectif comprenant du sexe féminin, du sexe masculin, donc on essaie de trouver un nom qui est commun pour les deux concepts. Donc voilà, on a recours à des noms, à savoir Joël, Dominique. Et voilà, donc on essaye d'utiliser ce nom avec un nom de famille, bien sûr. Et on appelle des clients français, donc on essaye de convaincre tout d'abord qu'il s'agit de français. Voilà. Donc pour cela, il faut avoir un certain accent neutre, une maîtrise de la langue, un peu de dynamisme aussi. Et il faut être décontracté. Voilà.
Le télécentre, il est à Meknès ici ?
Oui, tout à fait. Jusque-là, il y a déjà 3 centres de travail sur Meknès. Je crois que d'ici les 2-3 mois, il y en aura plus. Justement, il y a toujours des annonces de pré-recrutement.
Vous êtes combien à travailler au centre comme toi, t'es acteur ?
On est un effectif de, on va dire, 22 personnes. Donc, presque 18 TA. Donc, t'es acteur ou t'es vendeur. Il y a des, je crois, deux ou trois, enfin, deux superviseurs, ce qu'on appelle des coachs ou team managers. Et il y a toujours donc un formateur qui prend en charge donc, les nouveaux recrutés.
C'est quoi comme contrat que t'as avec ?
Donc, en principe, il s'agit d'une ce qu'on appelle un contrat ANAPEC. Un APEC veut dire l'Agence nationale d'amélioration du travail. Donc, voilà. Donc, c'est une association qui a été créée il n'y a pas longtemps. Donc, elle essaie de, en quelque sorte, animer le recrutement des jeunes diplômés.
Et toi, ton contrat, il dure combien de temps et...
En principe, ça dure 24 mois. Mais est toujours renouvelable. Voilà.
Tu travailles combien d'heures par semaine ?
Donc 6 heures par jour. Donc ça fait vers les 36-37 heures par semaine.
Okay. Et pour combien de salaire ?
Bon, pour un salaire de 2500, donc dirhams.
2500.
Donc ici, à Meknès, on n'est pas bien payé par rapport à nos confrères Rabati ou Casablanca.
Ou même français, quoi.
Voilà, donc le salaire est de 250 euros. À Rabat, par exemple, ça atteint les 450, à Casa, voire les 600 euros.
Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce fait des entreprises françaises qui travaillent pour la France et qui délocalisent au Maroc ? Qu'est-ce que t'en penses ?
Pour nous, donc, ça reste positif, parce que justement, ben, qu'il y a un taux élevé du chômage, donc ça résout le problème en quelque sorte. Mais quand on pense à nos confrères ou à nos camarades en France, en Belgique, en Suisse, on est en quelque sorte jaloux. Voilà. Donc, pour un TA en France, il peut toucher vers les. 2000 euros pour nous, pour un salaire de 250-300 euros, donc ça reste un peu injuste.
L'entreprise, elle profite parce que Bouygues Télécom, c'est une des plus grandes, enfin Bouygues, c'est une des grandes entreprises françaises qui a plein de sous. Elle profite de cette situation au Maroc.
Oui, bien sûr. Sinon, je vois pas autre raison pour laquelle ils vont penser au fait de délocaliser leur centre. Ils en profitent, quoi. Je vais essayer de passer un message. Parce qu'en fait, Bon, on essaie de travailler donc au sens littéral, fait toujours preuve de civisme et envers notre société qu'on représente, on va dire de façon abstraite. Mais on attend toujours un certain encouragement et certaines améliorations ou évolutions dans le domaine des centres d'appel ici au Maroc. Bon, c'est ce que j'espère, voilà.
Jacques Chirac et son épouse Bernadette sont au Maroc où ils passeront les fêtes de Noël et rentreront à Paris à la fin de cette semaine. Après ses vacances au Maroc où il a pris l'habitude ces dernières années de passer Noël, le chef de l'État regagnera Paris pour préparer la traditionnelle allocution présidentielle du Nouvel An le 31 décembre. C'est ce qu'on pouvait lire dans le journal marocain L'Opinion le 25 décembre dernier. Bah oui, il faut quand même rappeler que le Maroc c'est le sud de la France. On y mène aux usines, aux centres d'appel. Le président y va en vacances. On dit même que la moitié du gouvernement français y a passé les fêtes de fin d'année. La bourgeoisie française part pour un week-end dans les dunes du Sahara ou dans un hôtel de Marrakech quand ils n'ont pas encore racheté un de ces magnifiques riads ou alors carrément une villa comme l'a fait Bernard-Henri Lévy à Marrakech. Les palais royaux, tout comme le port de Tanger, le tramway de Rabat, sont construits par Martin Bouygues et certaines terres agricoles appartiennent encore à d'anciens colons français. Oui, 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 tout ça 50 ans après l'indépendance du Maroc. Il paraîtrait même que certains animateurs de radio alternative française profiteraient de ce pays pour faire des émissions.
C'est, la France sort au Maroc, mais elle doit rester la culture, elle doit rester la langue, elle doit rester les investissements, elle doit rester tout. Et lorsque le régime veut faire quelque chose, il veut contacter. Il veut contacter le Champs-Élysées. Il veut contacter le palais français.
L'Élysée.
Comment ?
L'Élysée
pour comment faire dans cette affaire, comment faire dans cette affaire. Et c'est ça la préfiguration, c'est ça.
Maroc and Roll,
Radio Canu.
écrit d'une terrasse marocaine survolée au crépuscule par les cigognes qui cherchent le soleil. Je vous écris d'une terrasse du Maroc où des femmes, depuis la leur, m'observent et se moquent. Je vous écris d'une terrasse marocaine où le jour le soleil tape et la nuit le froid frappe. Je vous écris d'une terrasse du Maroc où l'on voit s'élever les minarets verts des mosquées et les antennes qui captent les satellites de l'Europe. Je vous écris d'une terrasse du Maroc, depuis les rues, s'élèvent les sons du souk, l'odeur des épices et du kif qui fait des nuages au-dessus des chibanis assis. Eux aussi, ils contemplent l'animation que nous offrent les ruelles de la Médina. Je vous écris d'une terrasse marocaine où on croise des poules, des lapins et des oies, comme dans une cour de ferme. Je vous écris d'une terrasse marocaine d'où l'on voit la mer et au loin la côte de l'aubaine européenne. Je vous écris d'une terrasse du Maroc où tous les ans on terrasse les moutons. Je vous écris d'une terrasse marocaine, la nuit tombe et on écoute le muezzin qui vit au rythme du soleil.
Est-ce que c'est demain qu'on broutera le gazon, que les nouveaux bergers gardent sur leur montagne de pognon?
Radio Canu, 102.2, la plus rebelle des radios, émission spéciale ce soir, rock'n'roll voyage au Maroc, rock'n'roll, on vient d'entendre un petit extrait du film OSS 117, juste avant c'était les muezzins des terrasses marocaines, et avant un petit peu de musique, c'était Nassel Kiwan, je pense, un vieux groupe des années 70 au Maroc, un groupe contestataire qu'on peut même rattacher au mouvement international des hippies. Et puis là, en fond, trio, les moutons, parce que pendant notre séjour marocain, c'était la fête du mouton, comme on dit dans les médias français, la fête de l'Aïd, qui se traduit littéralement par fête de la fête. Donc on va vivre cette tradition en son. Alors je dis tradition plus que fête religieuse, car la fête du mouton, c'est autant une fête religieuse dans le monde musulman que le nouvel an est une fête religieuse dans le monde chrétien. Alors c'est pas du prosélytisme religieux que de diffuser cette cérémonie traditionnelle à la radio, puisque bah voilà, c'est une tradition, on est en famille en plus avec un copain athée. Par contre, petit avertissement pour tous les végétariens, végétaliens et autres antispécistes qui nous écoutent, car dans ce petit reportage qui va suivre, il va y avoir du sang.
Bonjour Rachid.
Bonjour monsieur.
Comment ça va?
Ça va très bien, merci. Ouais.
Alors aujourd'hui c'est l'Aïd?
Oui, oui c'est l'Aïd. En fait, le Aïd, ça coïncide avec la nouvelle année.
Et c'est exceptionnel.
Oui, c'est pour avoir une... c'est peut-être que c'est une coïncidence pour avoir une complémentarité entre tous les peuples du monde, c'est quelque chose de très bien. En fait, nous, les musulmans et même les chrétiens, fêtent leur nouvelle année.
Ça va?
Ça va bien et toi?
Ouais, ça va.
On va dire bonjour à Jawed aussi. Bonjour Jawed.
Ça va bien? Ça va.
Jawed, toi, tu l'es bouché aujourd'hui?
Oui, je vais gorger ce mouton-là.
Je vais essayer de dire bonjour au mouton. Bonjour le mouton. Le mouton, ça va?
Bonjour, Sudan.
Donc voilà, on est le 31 décembre 2006 à Fès. Et c'est l'Aïd el-Kébir, la grande fête, où on va égorger le mouton.
Maintenant, on va monter à la terrasse.
Donc voilà, le mouton est resté 3-4 jours, je pense, dans la baignoire de la maison. Là, il a été mis dehors dans le couloir. Mohamed et Afid montent le mouton dans l'escalier.
Bon, la fête de l'Aïd, ça nous a rêvé de prophète Abraham lorsqu'il a rêvé qu'il tue son fils Ismaël. Alors lui, il a voulu exécuter l'ordre du Dieu. Il a dit à son fils que je rêve de te tuer. Alors le fils lui dit à son père, tu peux exécuter les ordres du Dieu. Et au moment de l'exécution, le Dieu lui a récompensé avec un grand mouton. Et ça, c'est resté comme une coutume. C'est parmi la cérémonie de l'Aïd. C'est un test du Dieu. Alors, il a juste voulu tester l'obéissance de Abraham. Le Dieu n'accepte pas que quelqu'un être tué comme ça, sans rien.
Il y a déjà des traces de sang sur l'escalier, donc c'est pas le premier mouton qui va être égorgé sur cette terrasse.
Et voilà, c'est la terrasse.
Alors, Afid, explique-nous un peu, on est sur la terrasse maintenant. Il y a déjà eu un mouton tué ici.
Ouais. Toutes les fêtes.
Toutes les familles de l'imam montent sur la terrasse pour égorger leur mouton.
Ouais, bien sûr. Parce que c'est le seul terrasse à la base.
Je sais pas si le mouton sait ce qui va lui arriver, mais il n'a pas l'air très content. Donc voilà, Jawed le boucher a enlevé sa djellaba, sorti les couteaux de sa poche. Il a les jambes.
Tu veux discuter avec Jawed avant l'encore ?
Non. Hein ? Non, je vais commenter. Donc on traîne le mouton par terre sur le lieu d'exécution dans le coin d'une terrasse. C'est un mouton muet, hein. Il dit rien. Hop, donc on essaye de mettre le mouton sur le dos. Afid lui tient les cornes, Jawed lui met les quatre pattes repliées, lui tient les quatre pattes avec les mains. On rapproche le couteau, ça va être gore, je sens. On écarte un peu la laine, les poils, pour trouver l'endroit juste, je pense. Et on prend le couteau. On pose le couteau sur la gorge, là, le mouton se débat. Et ça y est, on coupe. Et le sang gicle. Ça gicle. Il a rien dit, le mouton. Il y a les pattes qui bougent encore un petit peu. Je pensais que ça rendrait plus de son, mais il se vide. On peut tuer des veaux aussi alors?
Oui, c'est permis. parce que les boucs, les moutons, et les veaux et les chameaux. Mais il y a des critères d'être valable. Un mouton doit dépasser un an. Un bouc doit dépasser un an aussi. Un veau doit dépasser 2 ans. Et un chameau doit dépasser 4 ans.
Alors c'est une fête religieuse, mais aujourd'hui c'est aussi devenu une tradition, quoi.
Oui, la fête chez nous, les musulmans, ça doit réunir la famille. Et c'est une bonne occasion pour être réunis. Et on échange les saluts et peut-être c'est une occasion de voir quelqu'un que tu as beaucoup de temps que tu n'as pas lui vu.
Voilà, le mouton a bougé pendant 5 minutes, a lâché des merdes, ses derniers excréments. Et là, il a l'air bien immobile. Non, il bouge encore. Donc je vais déguiser un plus petit couteau et là on commence la découpe du mouton. Alors on coupe un tout petit bout en bas de la patte arrière. En fait il ouvre, il fait une petite fente. Et il enfonce une sorte de long tournevis. Pour laisser passer de l'air, je pense, entre la peau et le corps et la viande. Donc voilà, il y a un petit trou dans la fente. On tient le mouton sur le dos, enfin ce qui reste du mouton, le corps, la tête n'a plus. Et là, Mohamed souffle dans le trou pour gonfler le mouton. Alors, j'ai pas bien compris encore pourquoi. Voilà, donc il prend son souffle et il souffle dans le corps du mouton, enfin dans le trou qui a été fait auparavant pour gonfler le mouton. Comme un ballon de baudruche, quoi. Donc voilà, le mouton est bien gonflé, on tape dessus. Je pense que c'est pour faciliter la découpe de la peau, quoi.
Comment on dit, on commence par les jambes. Puis on suit jusqu'à la tête, puis on ouvre les entrailles, on fait sortir les entrailles, et on lave avec de l'eau, c'est tout.
Non, pendant qu'on continue de déshabiller le mouton, dans un coin de la terrasse, on fait un feu, c'est la mère qui s'en occupe, visiblement on va brûler la tête.
Oui, c'est parce que la tête, on arrache pas la peau. C'est juste on le fait brûler. On arrache la poêle avec du feu.
Ça y est, la peau est maintenant complètement ouverte, complètement enlevée. On a ouvert la chair du mouton. Là, on enlève les abats. Alors, on enlève le... une sorte de peau blanche.
Ça, c'est la graisse. C'est de la graisse. C'est la graisse. Cette graisse-là, c'est la tradition, c'est... Au moment du après l'opération dégorgée, on fait griller le foie et on tourne et on fait tourner la graisse autour du foie. C'est le brochet, oui.
Pour les intestins.
Les intestins. Ça c'est pour approvisionner. Et pendant 3 mois, on fait des épices et du sel et on met dans le soleil. pour qu'elle sèche. Après on le mange. On mange dans la fête du Moulid. Moulid. Oui, dans le Moulid, ça se coïncide avec la naissance du prophète Mohammed. Oui, c'est le moment idéal pour manger. Ah oui, ça.
Voilà, le mouton est vidé, pendu. Il reste plus que la viande, a priori, les os. J'avais de remettre ça là-bas, il va aller sur une autre terrasse, j'imagine, couper un autre mouton. Ça fait.
Dans la tradition religieuse, on ne doit pas vendre rien. On doit donner. On doit donner un don. On doit manger le tiers. Et on doit donner le tiers pour les pauvres. Et on doit approvisionner le tiers.
Combien de moutons aujourd'hui, Jawed?
Aujourd'hui, 3.
1, 2, 3, 3.
Voilà.
Ça fait maintenant, c'est fini?
3. Les autres années, 7. Mais dernièrement, je suis fatigué. Et il ne reste que après de son frère. Voilà, c'est dit.
Marocaine des radios ce soir, émission spéciale Marocaine Roule, petit carnet de voyage au Maroc, petit voyage réalisé durant cet hiver. Et on vient d'écouter un groupe marocain qui vient de la ville Essaouira. Essaouira, c'est le Saint-Malo du Maroc. C'est un joli guide touristique. C'est aussi un petit peu la capitale des Gnawa. C'est là-bas que se tient le festival Gnawa tous les mois de juin. là-bas. Et donc à l'instant, un groupe qui vient d'Essaouira qui s'appelle Amarg Fusion, donc qui fusionne reggae, rock, musique traditionnelle gnawi, et puis quelques mélodies orientales, arabesques, arabisantes, comme ça. Amarg Fusion. Et puis pour terminer, dernière ville étape de ce Marocainroll, c'est la ville de Meknès, ville impériale. Et ben voilà, me voilà à Meknès, sur la grande place à côté de la Bab Mansour. Alors après, après Tanger, l'international, après Rabat, la capitale, mais la capitale avec un souk bien, bien sonore. Après Ksar El Kebir, la militante. Après Fès, on va dire la, traditionnelle, puisqu'on était en famille, qu'on a observé la fête du mouton. Nous voici à Meknès. Alors qu'est-ce que ça va être Meknès? On va voir tout ça.
Meknès par exemple, à Meknès il existe une école qui s'est adaptée au 14e siècle. C'est la première école dans tout le Maroc. Ce qu'on s'appelle Medersa Bonania, c'est adapté à la dynastie marinite. C'est avant la dynastie Alaouite, depuis le 14e siècle. C'est grâce à un professeur qui s'appelle Hassan Bouanal, les gens ils ont commencé à étudier là très tôt, dans ce, comme je t'avais dit, c'est à la fin du 14e siècle. Selon ce qu'on voit devant nous, c'est une ville impériale qui était faite par le fondateur de Meknès, Moulay Ismaïl. Il a monté de Marrakech dans cette époque-là, à la fin du 17e siècle. Il arrivait d'être comme un roi à Meknès. Il a commencé à faire aussi des autres murs. Par exemple, le mur que vous voyez là avec l'autre, c'est pas le même âge. Là, il y a trois siècles différents, quoi. Là, c'est plus âgé que celui-là, parce que celui-là, c'est la partie de la Médina ancienne.
Donc là, c'est la Médina ancienne. Là-bas, c'est Bab Mansour, c'est ouais. Ça
Bab Mansour, c'est l'entrée principale, normalement, de la ville impériale de Meknès. Parce que quand on parle de Meknès, on trouve un quartier juif marocain, on trouve une partie arabe, on trouve une partie barbare. On trouve une ville impériale, quoi. C'est ça, les quatre parties de Meknès. Sinon, là, la place où on est maintenant, c'est le cœur de Meknès, quoi. C'est le centre. Parce que par ici, on peut y aller n'importe où. C'est très facile pour y aller dans n'importe où.
Donc depuis la grande place à côté de Bab Mansour, je rentre dans un des plus beaux souks du Maroc, je pense. Souk aux épices, souk aux olives. Donc voilà, je descends quelques marches. Un marché couvert. Bonjour. Ça va bien?
Ça va, alhamdoulilah.
Qu'est-ce que tu vends?
Des dattes, des amandes, des figues, tellement les fruits secs.
Ok, ça marche?
Ça marche, alhamdoulilah.
Alhamdoulilah, ça marche, merci. Comment il s'appelle le marché ici?
Marché l'Edim.
Marché l'Edim.
Marché l'Edim.
C'est dommage, autant à Rabat, le souk était super sonore ici, c'est vraiment les odeurs, les couleurs qu'il faudrait photographier, mais avec le son c'est difficile. Voilà. Donc les vendeurs sont en hauteur par rapport aux clients. Et entre les vendeurs et les clients, il y a donc les étals, les pyramides d'olives, les pyramides d'épices. Et voilà, la radio en fond. Donc on a déjà fait le tour. Là, on arrive dans une allée, l'allée des animaux. Des bouchers où on vend des poules. Bonjour.
Ça va?
Ça va bien et vous?
Oui, ça va. Les poules, ramassez les poulets. Ramassez les poulets.
C'est pour tuer les poulets?
Oui.
Donc l'interview du poulet. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah voilà, il coupe. Hop. Et là tu l'as mis dans quoi?
Le taro.
Le
taro.
Le taro. Hop là, deux poulets. Deux poulets tués au moins de deux.
Je souhaite le taro. Ça y est.
Et qu'est-ce qui se passe là-dedans?
Le fot-fot. Fot-fot. Ah.
Donc les poulets continuent de bouger alors qu'ils ont eu la gorge tranchée. Et ça, c'est quoi alors?
C'est ça, la machine. La machine, le poulet.
Ok. Et tu mets le poulet, donc il y a une sorte de du poulet qui tourne avec. Alors il me fait attendre, on va voir comment ça se passe en direct. Donc il y a plein de sang de poulet, voilà. Les sangs sortent du taro. Le poulet sort du taro. En sang, on prend de l'eau pour les nettoyer un petit peu. Donc là, il les nettoie dans de l'eau chaude.
Bota.
Bota gaz.
Bota gaz. Tout ça, le forno. Ça,
Donc ça chauffe la marmite dans laquelle il lave. C'est pour laver, c'est pour nettoyer. Donc les deux poulets qui ont été égorgés sous le micro sont maintenant trempés dans de l'eau bouillante. On les nettoie et on va les mettre dans cette fameuse machine, donc une sorte de poulie avec des croches. Voilà, il a branché la machine. Et là, le son qu'on entend, en fait, c'est une manière d'éplucher le poulet, de lui enlever toute sa peau, quoi. Et voilà, le poulet, il est déshabillé, quoi. Ok, choukran. Choukran jazilian. Slama. Voilà pour le... Comment on traite les poulets en moins de deux. On les tue, ils ont plus de peau, ils sont lavés. Bah, je continue de parcourir ce magnifique marché. On retombe sur des étals avec des olives. Et je vais sortir par un petit porche. Et je me retrouve sur un grand boulevard qui longe les remparts de la Médina de Meknès, dans laquelle je vais me réenfoncer par une autre porte.
Soyez les bienvenus à Médina de Meknès, à Sekakin. Elle s'appelle Sekakin.
Sekakin ?
Oui, ça, pas ici, tout
la rue. C'est la rue Sekakin.
La rue Sekakin.
Alors là, ça devient particulièrement tendu. La foule. Bonjour. Voilà, donc on s'enfonce, on est sorti du souk. Et on est dans les petites ruelles de la Médina aux couleurs. Alors j'aimerais bien comprendre. Bonjour. La baisse. Zien, Zien, Zien. La baisse avec.
Oui, là, tu es la baisse. On t'a
la baisse, ça va.
Alhamdulillah.
Alhamdulillah.
La baisse.
Comment tu t'appelles?
Olivier. Et toi, comment tu t'appelles?
Ahmed.
Ahmed. Ça va, Ahmed?
Ça va.
La baisse avec.
La baisse.
Ok.
Avancez à Meknès et Babjdid. Ça va.
Ça va. C'est bien. Merci, Ahmed. Bonjour.
Bonjour.
Ça va?
Ça va.
La baisse avec.
La baisse.
Tu parles français?
Oui.
Comment tu t'appelles?
Abdeljapar.
Abdeljapar?
Oui.
Ça va bien?
Ça va.
Alors c'est quoi ici? On est... Alors attends, je vais expliquer un peu. On est dans une petite ruelle de la Médina. Il y a une petite boutique avec plein de jeunes marocains.
La Médina, les sans-fire, tu vois les pieds, un carotte, la Médina. El Meknès.
El Meknès. Et c'est quoi ça?
Anas.
Anas.
PlayStation 2.
Ah, c'est une salle de jeu?
Oui.
Ok, vous jouez à quoi?
On sans-fire, t'es au mes pieds.
Hein?
Sans...
Sans
faire le pied. Le PlayStation 2 ou le 1.
Et quel jeu, le foot ou...
Oui, le foot, football.
Ok, merci.
Merci.
Bonne journée.
Bonne journée.
Voilà, plein de jeunes entassés dans des salles de jeux. C'est la première fois que je vois ça au Maroc. Il y a plein de salles de jeux ici, alors PlayStation, mais aussi des jeux qu'on connaît en France dans les bars et dans les salles de jeux aussi. Alors voilà, je suis dans une rue et on m'interpelle. Bonjour.
Bonjour.
Ça va?
Ça va bien.
La baisse Alec.
Alhamdulillah.
Comment tu t'appelles?
Moi? Moi et toi?
Moi, toi. Moi, je sais comment je m'appelle.
Et toi, comment ça s'appelle?
Olivier.
Olivier? Ah. Moi, Khalid.
Ok, enchanté, Khalid.
Bien.
Qu'est-ce que c'est ici?
Ici?
Ah.
Ici, l'ancien, le centre de travail. C'est les coutures.
La couture, ouais.
La couture. La couture de main. La couture de main.
À la main.
Ah. Oui. Viens. Yes. C'est comme ça.
Bonjour.
C'est comme ça. C'est culture.
Ok.
Les femmes.
Ah non, c'est des hommes.
Vêtements,
ah,
des
c'est
femmes.
Les vêtements des
c'est
femmes.
C'est le djellaba, le koftan, le taksheta. C'est les appels des vêtements des femmes.
Uh-huh.
C'est culture de. C'est le soc.
C'est le souk des coutures.
Ah, c'est le souk.
Uniquement la couture.
Le complet de couture.
Okay.
Et là.
Donc plein de boutiques de couture, il nous explique. Merci.
De rien. De rien. Voilà.
Bonjour monsieur.
Bonjour.
Ça va bien? La baisse Alec?
Alhamdulillah.
Alhamdulillah, Mzien.
Mzien, Alhamdulillah.
Alors, c'est quoi ici?
Maroc.
Maroc, ouais, ça je sais. Meknès. Et la boutique?
Et la boutique, j'ai là-bas.
J'ai là-bas?
J'ai là-bas, Kbatania, les tapis, Zerbia. Zerbia.
Bon, Meknès, c'est la capitale du tapis ou?
Le capitaine du tapis, oui.
Ça marche?
Ça marche, alhamdoulilah. Les tapis, le centre de berbère à Meknès.
Ouais, c'est ça.
Le centre de berbère de Meknès.
Vous êtes berbère ou?
Ouais, non, moi, c'est berbère, oui. C'est de la famille berbère, c'est toutes les berbères.
Ok. Ouais. De quelle région? Du Moyen Atlas ou?
Le Moyen Atlas, à Azrouk.
Meknès, c'est la capitale berbère. Dans les régions, on a 45 tribus berbères. Alors, par exemple, les tapis, quand on dit le tapis, il y a un sort de tapis, ce qu'on s'appelle un kilim. Un kilim, il a une longue histoire avec les barbares. Ça veut dire, parce que, comme c'était déjà remarqué, il y a des femmes que vous voyez avec des tatouages. Si vous ne savez pas pourquoi ils font ces tatouages, parce qu'avant, ça n'existe pas une carte d'identité, ça n'existe pas un passeport. Pour savoir de quelle tribu, de quelle région on vient, c'est juste avec les tatouages. Alors dans cette époque-là, il y a par exemple, on trouve un sort de kilim, ce qu'on s'appelle un kilim de mariage. Pourquoi on s'appelle un kilim de mariage? Parce qu'avant, c'est un truc qui se fait par femme, par fille. La fille, elle commence à faire un kilim chez elle. Après, pour se marier, le monsieur ne voit pas la femme. Il voit que le kilim qui était fait par la femme. Donc sur ce kilim, il peut voir la philosophie, il peut connaître comment la fille. Si le kilim est accepté, ça veut dire le mariage est accepté. Si le kilim n'est pas accepté, le mariage n'était pas accepté. Mais ça, c'est dans, comme je t'avais dit, c'est à la fin du 15e, 16e siècle. C'est pour ça, jusque maintenant, il a un grand contact, le kilim, avec les barbares. Ça veut dire, entrer chez un barbare, c'est honte que tu ne trouves pas un kilim ou deux kilim, le minimum à la maison. Et on trouve un deuxième sort de ce kilim, ce qu'on s'appelle le kilim de bébé, par exemple. Le kilim de bébé, c'est la femme qu'il sent qu'il est très attirant, avec des petites tromodaires, des petits chameaux, des petits trucs comme ça, des couleurs attirantes. Pourquoi on s'appelle ça un kilim de bébé? Après qu'on a eu son bébé, et il a quelque chose à faire, il peut poser le petit jouet sur ce bébé-là. Le petit reste attiré par les couleurs, par les petits chameaux qui existent dans ce kilim-là. Et comme ça, automatiquement, il donne le temps à la maman de faire sa cuisine, de faire tout ce qu'il a à faire. C'est ça le kilim. C'est ça l'artisanat barbare.
Si c'est avec le poil de chameau, et rebroder avec la laine de mouton et nouer avec le poil de chèvre. Si c'est avec le poil de chameau, et rebroder avec la laine de mouton et nouer avec le poil de chèvre.
Yes, c'est une jolie phrase. Donc on est entré dans une magnifique pièce aux 1000 tapis avec des jolis lustres.
C'est radio direct?
C'est direct, ouais.
FM ou...
C'est pour la publicité?
Non.
Alors Don Louis faire le chanson de Gigi. Prenez le Gigi,
vas-y. Ah ouais, je veux ça.
C'est un groupe de...
Ibrahim. Vas-y, fais-moi la chanson, Ibrahim.
نبيل كاتشيري وتباري ولا حلو انك تسمع النغمه راك تكون داري لا الهضره المغربيه تسمع كلام ماضي شي نغمه عيثاويه غادي تخليك ساي في المعلم كنا فيها تبقى مكا الا بغيتي تفهميه غادي تمشي نبيسي بلا ما زيد نفسر لك لامواط مع الفلوطه باعيت مجدبه وخلي هذه ماشي اخذ هذه ديك شاني هكا عاش كاينه بلا في الراب تيما هكا
C'était quoi cette chanson? C'était du hip-hop marocain, du rap marocain?
Ashkain.
Oui. Radio Canu.
Marocain roule.
Ashkain, Shkoum, Gharb, Asidi, Bashar,
فوقين تهوم ملك ناس سيري وباش نزيد نحيل لك كاشير ريد داري ولا حلوتني كسمع النغمة راه تكون داري إلا الهضرة مغربية سمع كلام ماضي زيد معي زاوية غادي تخليك ساهي سمعاني بلاسيات ما تبقى مبالي وني تفهم شنو هي غادي تمشي مبلكسي لا ما زيد مكسل لو الكلام واضح مع الفلو ولا بديت وجبة وخليها ديما شاغدة بيديك شالي هكا اش كاينه بلا فرق ديما هكا Oh, devin qui débarque à nouveau, qui te braque avec grâce, une classe pour remettre la barre. Oh, lève tes bras, devine qui débarque dans ta ville et qui t'embarque sans demander ton avis. Et ça va se faire. Devine c'est les mêmes qui reviennent, ceux qui mettent leur barre pas à part pour reprendre leur faille, qui s'emparent du mic, mec. Ashkain Ford, Kullam Gharba, Ashkain Bridjam Isa, wish I bought, Allaham Aydan Nour.
Ashkain, le rappeur de Meknes qui cartonne grave au Maroc. Et c'est vrai en plus, c'est même connu un petit peu en France il me semble, Ashkain.
Rock and Roll.
Le magazine musico-politico-drôlo-radiophonique.
Plus d'infos sur l'émission et sur la radio, vous tapez. En plus, on peut nous réécouter en direct apparemment sur le net, donc www.radiocanu.org. Et pour écouter des extraits de l'émission, vous cliquez sur programmation et vous allez sur Rock'n'Roll le lundi à 22h. Il y aura peut-être des extraits de ce Marock'n'Roll en écoute prochainement.
Rock'n'Roll.
Et pour terminer cette émission spéciale, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'était une émission un petit peu longue, une émission carnet de voyage au Maroc. On écoutera un dernier morceau du groupe de rock alternatif marocain de Casablanca qui s'appelle Oba Oba Spirit. Mais avant, pour terminer ce petit voyage, et pour ceux qui étaient là depuis le début, ils se souviennent qu'à 22h, c'est une voiture française qui a emmené le micro de Rock'n'Roll jusqu'au Maroc. Et c'est cette même voiture qui nous a ramenés.
Donc voilà, on est dimanche 7,
il doit être 4h espagnol, 4-5h.
Et depuis 3-4 jours à Meknes, j'ai retrouvé Thierry et Karine et Louison. Bon, ça va bien ?
Berer, Abdullah.
Mzien ?
Kulchi Mzien.
Alors pendant que j'étais à Rabat, à Tanger, que ça va le Kébir Fest, vous avez fait quoi à peu près depuis qu'on s'est quitté ? C'était à l'arrache ?
Eh ben, on a tracé d'abord dans le Moyen Atlas, on s'est arrêté à Mrirt pour 2 jours, dans une auberge pour passer Noël. Et puis ensuite, direction le sud de Er Rachidia, rendez-vous avec notre ami Omar. Et à partir de là, on a été drivé dans la famille, d'abord à Er Rachidia, ensuite à Zagora. Au camping, prends ton temps, on a bien pris notre temps, c'était Mzien. Et puis Omar avait de la famille là-bas, on a visité ses tantes, ses sœurs, ses cousines, etc. Donc couscous, famille, ambiance familiale, très sympa. Alors après, on a pris la piste, on avait dans l'idée de dormir 2-3 nuits dans le désert, il faisait un peu froid, et puis vu qu'on a bien pris notre temps à Zagora, on n'avait plus le temps, on n'a passé qu'une nuit dans un petit bled qui s'appelle Tafraout, très joli, habité par les contrebandiers de clopes et de je sais pas quoi. Et là,
c'est vers l'Algérie.
Voilà, juste à côté de la frontière algérienne, donc les 4x4 toute la nuit, les motos, ça n'arrête pas. Enfin, on n'a pas acheté de cigarettes, on a bien dormi, lever de soleil, coucher de soleil. Et puis après, on a repris la piste, on était attendu pour l'Aïd, c'était le jour de l'Aïd. Et on est arrivé quand tout était prêt, juste le temps de se faire beau. Et voilà, on a passé l'Aïd donc à Merzouga, dans la famille d'Omar. Voilà, puis après Merzouga, ouais, bah, on a repris le petit rythme, on était hébergé chez Omar. Salon le soir, salon fumeur avec tous les Marocains qui passent, qui parlent, que des touristes et des filles et en berbère. Alors nous, des fois, on s'ennuie un peu, puis d'autres fois, ils s'intéressent un peu plus à nous, on fait la conversation et là, on se marre. On fume beaucoup, on mange, voilà, pas grand-chose, on se balade. Si on s'est fait une journée touristique un peu, on en avait besoin. Pique-nique au bord du lac, le calme, les oiseaux migrateurs et après, petite descente de luge dans les dunes.
Et du coup, vous êtes resté dans des milieux plutôt naturels, plutôt ruraux, alors que moi, j'étais bien dans les villes. Quelques mots, meilleur paysage, le meilleur paysage dont tu te souviens.
sur ces 15 jours là.
Tafraout, le petit village où on a dormi là, sur la piste, entre Zagora et Merzouga, ouais, là c'était vraiment magique. Et ça aurait pas été là, je pense qu'on y bloquait 3-4 jours, rien que pour le silence et les balades, quoi. C'est vraiment très très bon.
C'est voilà. La montagne, c'est...
Eh ben ça, ouais, il y a de tout, toutes les couleurs. Il y a à la fois, on commence à retrouver le sable orange puisqu'on se dirige vers Merzouga, alors que à Mamid il est plutôt jaune et les dunes sont plus petites. Et là, on arrive, les couleurs commencent à changer. Il y a les montagnes noires qui brillent au soleil. Il y a des montagnes marron. Il y a des petits, à peine d'eau, donc quelques taches vertes et quelques cultures, des oiseaux. Juste, on avait une petite auberge qui s'appelait Kim Kim. La petite auberge juste avant le village, et on était vraiment paumés entre tout ça. Il n'y avait que ça et ce tout petit village au bout.
Toi, Louison, le meilleur paysage, la meilleure image que tu gardes du Maroc, du voyage là cette année.
Les dunes.
Les dunes à Merzouga ou...
Ouais, les dunes à Merzouga.
C'est des dunes, vas-y, explique-nous un petit peu de quelle couleur, elles sont grandes comment.
Elles sont roches, elles sont très grandes.
Très grandes, combien de mètres? Tu peux monter en haut ou...
Oui, on peut monter en haut. À peu près... 63 mètres, je sais pas.
Bah, merci pour cette petite description de 3 semaines en 4x4. Donc, Thierry, il a fui le micro en s'occupant du 4x4, rangeant un petit peu la galerie, tout ça. Et on va remonter dedans. Pour la France.
قال لكم قايد داو